Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il publie un ouvrage remarquable sur les nouveaux visages du djihadisme et la recomposition du Moyen-Orient. L'éminent politologue et universitaire Gilles Kepel sera avec nous pour nous parler de tout ça. Son livre s'appelle « Le prophète et la pandémie ». 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Faut-il reconfiner l'Île-de-France ? L'hypothèse est sérieuse et elle est sur la table. Anne Hidalgo, elle, ne veut pas en entendre parler. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Coup de griffe ce soir contre ces vaccins qui dorment au frigo. Et puis à 19h20, le grand débat du Club des idées. Ils sont les grands oubliés du moment, en quelque sorte. Comment rebondir à la cinquantaine ? Nos quinquas ont la forme et envie d'en profiter. Alors comment se réinventer, professionnellement notamment, quand on a 53 ou 56 ans ? Les entreprises jouent-elles le jeu de l'emploi des seniors et l'amour dans tout ça ? On en parlera aussi avec nos invités. Émission interactive ce soir, on attend vos témoignages au standard. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec vous, Christophe Lamarre, bonsoir.
Bonsoir Julien.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Je continuerai quand même à faire des petites balades parce qu'il fait beau en plus en ce moment, donc c'est pas parce qu'il y a un confinement que je vais m'arrêter de vivre. J'en peux plus.
La lassitude de cette Parisienne qui s'attend à un tour de vis supplémentaire à Paris et dans toute l'Île-de-France à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire.
L'exécutif mise sur une accélération de la campagne de vaccination pour éviter un reconfinement national. Le vaccin AstraZeneca est d'ailleurs étendu aux plus de 65 ans.
Accélération, élargissement du public prioritaire. La Haute Autorité de Santé recommande également d'autoriser les pharmaciens, les infirmières et les aides-soignantes à administrer tous les vaccins anti-Covid, pas seulement celui d'AstraZeneca.
10 000 victimes d'actes pédophiles dans l'Église de France depuis 1950. Le président de la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels vient de faire un premier point d'étape.
À Bordeaux, un adolescent de 16 ans toujours hospitalisé après avoir été blessé par balle alors qu'il voulait forcer un barrage de police au volant d'une voiture.
Adieu moteur hybride et moteur thermique. Volvo va passer comme d'autres constructeurs au tout électrique d'ici 2030, dit-il. Ces futurs modèles seront disponibles uniquement sur Internet.
On ne sait pas vraiment si on doit dire champagne, ça tombe bien. La Formule 1 tourne le dos à une tradition qui a beaucoup fait pour l'histoire de la discipline. Les vainqueurs des Grands Prix ne sableront plus le champagne sur les podiums. Le nom de son remplaçant à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris crève le plafond des 5800 points, plus 0,29% de hausse à 5809 points.
La météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Atmosphère printanière, voilà le programme.
Oui, comme aujourd'hui, hein, toujours beaucoup de soleil. Demain, des températures en hausse, encore demain après-midi. Mais attention, sur le nord-ouest, nous avons une perturbation qui va nous apporter des nuages et quelques petites gouttes. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Garder le cap coûte que coûte et croiser les doigts aussi un peu pour que ça tienne, ça peut aider. L'exécutif veut tout faire pour éviter un reconfinement national. En revanche, dans 20 départements, dont ceux de l'Île-de-France, la question d'un confinement le week-end est sur la table.
Oui, à Paris et dans toute la région Île-de-France, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants a été multiplié par 3 entre décembre et fin février. Plus de 7 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés par des patients Covid.
La maire Anne Hidalgo ne veut pas d'un confinement le week-end, ce serait inhumain, dit-elle. Qu'en pensent les Parisiens, Zoé Pallier ? Vous êtes en direct des Quais de Seine.
Oui, alors écoutez Christophe, ici tout le monde en est persuadé. Ce n'est pas seulement un confinement le week-end qui les attend, mais un reconfinement strict. Alors les Parisiens sont venus profiter cet après-midi, bière à la main sur les quais. Certains ont même pris leur ordinateur pour télétravailler au soleil. Les beaux jours, justement, c'est ce qui rendrait un confinement encore plus difficile à accepter pour Delphine.
Je reviendrai sûrement ici tous les jours. Je continuerai quand même à faire des petites balades parce qu'il fait beau en plus en ce moment. Donc c'est pas parce qu'il y a un confinement que je vais m'arrêter de vivre. J'en peux plus.
Alexandre, lui aussi, pressent que le prochain apéro se fera par visioconférence. Alors il envisage toutes les solutions pour y échapper.
Nous réfléchissons aussi un petit peu de partir s'exiler un peu ailleurs où les mesures sont peut-être un peu moins strictes, dans le sud ou dans le centre, pour éviter un peu tout de revivre ces confinements qu'on a déjà vécu deux fois. J'étais resté justement en région parisienne, dans le petit appartement de 30 mètres carrés. Ça, on le fait une fois, deux fois, trois fois si on peut essayer d'éviter.
Et même parmi ceux qui vivent dans de petits appartements, certains me disent être prêts à se reconfiner plusieurs semaines, si cela signifie pouvoir revenir face à la scène pique-niquer, écouter de la musique et se prélasser sans la menace du Covid dès le début de l'été.
Merci Zoé Pallier, en direct donc des Quais de Seine à Paris. La question du confinement le week-end sera sans doute d'ailleurs abordée demain au Conseil sanitaire de défense. Le Premier ministre Jean Castex pourrait d'ailleurs prendre la parole jeudi soir.
Et le gouvernement qui compte plus que jamais sur la vaccination pour franchir la ligne d'arrivée sans passer par la case confinement strict et long.
Une campagne qui devrait accélérer brutalement Victor Delande, puisque la Haute Autorité de Santé a fait une série d'annonces. Elle veut notamment étendre le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.
Oui, après l'annonce d'Olivier Véran hier soir, la Haute Autorité de Santé a effectivement recommandé ce matin d'étendre l'autorisation du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Cet élargissement est motivé par de nouvelles données venant d'une étude menée en Écosse, avec des pourcentages d'efficacité extrêmement encourageants de ce sérum, pour éviter notamment l'hospitalisation chez les sujets les plus âgés. Alors, dans un premier temps, ce sont les personnes de 65 à 74 ans avec des facteurs de risque, comme les personnes obèses, les insuffisants respiratoires, les diabétiques, qui seront prioritaires. Autre recommandation très importante annoncée par la Haute Autorité de Santé, tous les vaccins contre le Covid-19 doivent pouvoir être administrés désormais par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins. Il faut maintenant attendre un décret pour que ces professions puissent concrètement vacciner dans leurs officines. Mais le but de cet avis est très clair, plus de soignants pour piquer afin d'accélérer la campagne de vaccination. Je rappelle qu'à ce jour, près de 3 millions de Français ont reçu une injection et la moitié d'entre eux a déjà pu bénéficier des deux doses. Et selon les projections du gouvernement, avec ces nouvelles données, 6 millions de Français auront reçu au moins une dose à la fin du mois de mars.
Victor Delande. L'Allemagne choisit de son côté de desserrer un peu l'étreinte et lance une campagne de tests antigéniques massive face à la lassitude de la population. La chancelière décide d'assouplir un peu les restrictions. Les salons de coiffure ont l'autorisation de rouvrir. Les réunions entre deux foyers sont autorisées, mais pas à plus de 5 personnes.
Dans l'actualité également ce soir, ce rapport choc les premières conclusions, les premiers éléments de la commission d'enquête sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique en France, ils sont absolument accablants.
Peut-être 10 000 victimes d'abus sexuels depuis 1950, c'est en tout cas ce que laisse entendre le président de la commission indépendante. Jean-Marc Sauvé parle d'une estimation, Virginie Riva.
Oui, c'est un chiffre qui n'est pas encore définitif, a bien précisé Jean-Marc Sauvé, président de la commission d'enquête. Il se base sur les victimes qui ont déjà témoigné, elles sont 3 000, mais aussi sur les victimes potentielles, celles qui sont décédées, celles qui ne souhaitent pas parler. Pour en établir le nombre, il a commandé une enquête INSERM sur l'ensemble des abus sexuels sur mineurs dans la société, à l'école, dans la famille. Jean-Marc Sauvé, qui a insisté sur la responsabilité collective de l'Église, il fera des préconisations en septembre, libre ensuite à l'Église de les suivre, a-t-il précisé.
Il y a aujourd'hui un profond besoin de reconnaissance individuelle et collective des victimes et de ce qu'elles ont vécu. Ce besoin ne peut se résoudre seulement par le versement d'une somme d'argent, surtout s'il devait être assorti de l'injonction de se taire. Dire la vérité, punir les coupables lorsque cela est encore possible, évaluer les torts des institutions, réparer ce qui peut et doit l'être, poser des gestes forts permettant de rendre justice aux victimes.
D'après les premiers éléments de la commission d'enquête, on sait que la majorité des crimes ont eu lieu dans les années 50 et 60, qu'ils se sont produits majoritairement en établissements scolaires catholiques, puis au catéchisme et un quart en mouvement de jeunesse ou colonies de vacances, des victimes âgées dans la plus grande majorité des cas de 6 à 15 ans.
Virginie Riva. À Bordeaux, l'adolescent de 16 ans qui a refusé un contrôle routier est toujours hospitalisé.
Il a été blessé par balle la nuit dernière alors qu'il tentait d'échapper au volant d'une voiture de sport à la police. Stéphane Place, la police judiciaire de Bordeaux, est donc chargée de l'enquête.
Oui, la PJ qui espère entendre dans les prochaines heures le conducteur atteint au thorax la nuit dernière au volant d'une Audi RS3 de location immatriculée en Pologne. Cet automobiliste refuse de s'arrêter quand une patrouille de police veut, vers 23h, procéder à un banal contrôle. Plutôt que d'obtempérer, le chauffard accélère dans le centre de Bordeaux. Une course-poursuite s'engage jusqu'au quai qui borde la Garonne. Le fuyard se retrouve face à un fourgon de policiers venu en renfort, pris en tenaille, alors que plusieurs fonctionnaires s'approchent de la puissante berline. Celle-ci percute un véhicule de police, fonce de nouveau malgré la présence des agents qui sont à proximité. Et c'est à ce moment-là que retentissent plusieurs coups de feu. L'Audi va avancer encore quelques mètres avant de stopper net. Blessé, le conducteur, âgé, vous le disiez, de 16 ans seulement, déjà connu de la justice, est transféré au CHU, où son état se serait donc stabilisé, d'après ce que l'on nous dit ce soir. Quant aux deux passagers qui se trouvaient à ses côtés, ils avaient pris la fuite à pied. Le premier a été rapidement interpellé dans une rue adjacente. Le second est toujours recherché par les enquêteurs.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
À 18h10, la suite du journal. Avec cette révolution donc chez Volvo, le constructeur automobile décide de passer au tout électrique, et cela d'ici 2030.
Oui, et c'est là où le Suédois va plus loin peut-être que la concurrence, c'est qu'il promet d'abandonner l'hybride rechargeable et le moteur thermique. Ces futurs modèles totalement électriques, on ne pourra les acheter que sur Internet, Aurélien Fleurot.
Oui, exactement. C'est une annonce inédite pour un constructeur automobile historique. Des nouveaux venus comme Tesla le proposent déjà. Mais voilà, à partir de 2030, les clients feront absolument tout en ligne. Mais cette révolution ne va pas sonner le glas des concessionnaires, selon Yves Pasquier-Desvignes, le président de Volvo Cars France.
Les réseaux de distribution eux-mêmes vont complètement s'adapter à cette digitalisation des process de vente. Donc ils vont être totalement intégrés. C'est pas la fin. C'est juste que le client décidera de son parcours et sans aucun doute, à une échelle de 10 ans, eh bien c'est le pari et la vision que nous avons de ce changement radical de la transaction et la manière de faire la transaction commerciale.
À l'heure actuelle, Volvo est très présent sur le marché des hybrides rechargeables, une technologie de transition pour le constructeur, le temps que les automobilistes soient rassurés par le 100% électrique, notamment avec un réseau de bornes de recharge de qualité, ce qui n'est pas encore le cas. Et dès 2025, l'objectif qui a été annoncé aujourd'hui, c'est d'arriver à la moitié des ventes en 100% électrique pour ensuite abandonner les moteurs thermiques en 2030, un objectif que l'on retrouve chez de plus en plus de constructeurs, notamment ceux positionnés dans le haut de gamme. L'abandon total de l'essence et du diesel prendra certainement un peu plus de temps pour des marques dites généralistes comme Peugeot ou Renault.
Bien, ça va pas être facile d'essayer les voitures sur Internet quand même avant de les acheter.
C'est pour ça que peut-être, non ?
Les concessionnaires vont continuer sans doute à nous présenter les modèles. Merci en tout cas Aurélien Fleurot, c'est vrai que c'est une révolution qui s'annonce. Le football maintenant, Rennes n'a pas mis longtemps pour se trouver un nouvel entraîneur.
Ce sera Bruno Genesio, selon nos confrères de l'équipe. Quelques détails resteraient à régler, mais l'ancien entraîneur de Lyon devrait donc succéder à Julien Stéphan sur le banc rennais.
Voilà, Julien c'est moi. C'était l'une des traditions en Formule 1, une autre révolution. Le champ Champagne sur le podium, et ben c'est fini.
Ouais, c'est terminé. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce qu'on a tous vu au moins en photo ou en vidéo les images de ces vainqueurs de Grand Prix s'arroser et arroser la foule de champagne. C'est terminé, donc fini la boisson à bulles, Simon Rubin. Enfin, la prochaine en aura des bulles, mais elle ne sera pas française.
Exactement, puisque la marque française de champagne Carbone de la maison De Vavry ne sera plus la boisson des podiums, qui sera remplacée par Sacrilège du Prosecco. Un Prosecco au nom prédestiné, puisque c'est la marque Ferrari qui a été choisie, mais rien à voir avec l'écurie automobile. Alors, il faut rappeler que le champagne Carbone, le français, était présent depuis 3 ans en Formule 1, qu'il avait d'ailleurs piqué le marché au prestigieux Moum et Mouette et Chandon. Un marché prestigieux, oui, bon pour l'image, c'est vrai, mais qui coûte très cher, il faut le souligner, puisque pour être présent sur les podiums, il faut payer plusieurs millions d'euros à l'organisateur du championnat de Formule 1, une opération qui n'était plus si rentable, a estimé la maison de champagne De Vavry, qui a donc choisi de ne pas prolonger son contrat avec la Formule 1. C'est donc la fin, vous le disiez, d'une tradition qui remontait à 1967 en automobile, et dans 3 semaines, au Grand Prix de Bahreïn, on va donc voir si le bouchon de la bouteille de Prosecco saute aussi bien que le bouchon de champagne.
Le bouchon de champagne, c'est 300 km/h, pareil. 300
ah bon
km/h, oui.
Dites donc, vous êtes bien renseigné, on voit que vous avez l'habitude. Merci mon cher Christophe. C'était le journal de Christophe Lamarre. La météo avec Anissa qui nous annonce un peu plus de nuages demain à l'ouest, mais globalement quand même une atmosphère qui restera printanière.
Oui, il va faire beau demain sur l'ensemble du pays, mais c'est vrai que sur la Bretagne et les Pays de la Loire, nous aurons demain une perturbation, alors un peu comme aujourd'hui, mais un petit peu plus active, c'est-à-dire qu'en plus des nuages, nous aurons quelques gouttes demain dans l'après-midi. Cette perturbation, elle va s'étendre au fil des heures, direction la Basse-Normandie et la Vendée. Alors attention, sur la Basse-Normandie, les orages peuvent éclater dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Les températures sont même en hausse demain, Julien, avec toujours des petites gelées matinales dans le Grand Est, moins 2 à Metz, moins 1 à Montluçon, 2 à 10 degrés sur l'ensemble du pays. Puis demain après-midi, vraiment beaucoup de douceur, 11 à Dunkerque, 13 à Brest sous les nuages, 16 à Nice et Aurillac, 18 à Paris et Lyon, 19 à Clermont-Ferrand et 20 pour Mont-de-Marsan.
Merci ma chère Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir notre invité à 18h20, le politologue et grand spécialiste de l'islam et du monde arabe moderne, Gilles Kepel, qui publie un ouvrage absolument passionnant sur les nouveaux visages du djihadisme, mais pas que, vous allez comprendre. Bonsoir Gilles Kepel.
Bonsoir.
Alors ce livre, il s'intitule « Le prophète et la pandémie », il est publié aux éditions Gallimard, et il s'appelle ainsi parce que vous racontez à l'intérieur comment cette année, marquée par la pandémie, a aussi occulté d'une certaine manière la recomposition majeure qui s'est déroulée au Moyen-Orient, de la Turquie à Israël, et qui a entraîné, dites-vous, un djihadisme d'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, djihadisme d'atmosphère ?
Alors ça, c'est un terme qui désigne plus spécifiquement ce qu'on a vécu à l'automne, avec bien sûr le moment le plus spectaculaire et atroce, c'est-à-dire la décapitation du professeur Samuel Paty, précédé par l'attaque d'un réfugié pakistanais à deux personnes qui étaient sur les locaux oui. anciens de Charlie Hebdo, et suivi après par l'assassinat aussi atroce de trois personnes le jour de la naissance du prophète la basilique de Nice.
Mais pourquoi atmosphère ? Qu'est-ce qui a changé ?
La différence avec Daesh ou avec Al-Qaïda, c'est qu'il n'y a plus de réseau. C'est-à-dire que dans Daesh, Ben Laden donnait des ordres pour aller lancer un avion sur les tours jumelles. Ouais. Voilà. Le reste, vous aviez des gars qui, depuis le califat, sur les réseaux sociaux, manipulaient deux terroristes, par exemple ceux qui sont allés tuer le père Hamel à l'église Saint-Étienne du Rouvray, qui ne se connaissaient pas, qui ont suivi des instructions. Après, on démonte ça. Là, pas du tout. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle des entrepreneurs de colère oui. qui agissent sur les réseaux sociaux, qui désignent des individus comme cibles, mais qui ne disent pas de les tuer. Qui font des campagnes de haine contre eux. Et puis ensuite, d'autres individus qui se sont montés la tête à leur manière, si vous voulez, et qui décident de passer à l'action.
C'est un djihadisme nouveau, différent, imprévisible, et qui peut frapper à tout moment. Est-ce que vous diriez que le risque aujourd'hui, au regard de ce que vous avez écrit dans ce livre, et puis on va venir après à la recomposition aussi du Moyen-Orient, parce que tout ça est lié à un impact, est-ce qu'il est plus inquiétant et plus menaçant qu'il l'était il y a quelques années ?
Non, c'est difficile de le dire comme ça, mais il est très différent parce que, d'une certaine manière, la riposte n'est plus tant autour d'une organisation, parce qu'il n'y en a plus, mais plutôt pour ce qui concerne les sources de cette inspiration. Et ce qui était paradoxal, c'est que Emmanuel Macron, par exemple, quand il dénonce le séparatisme islamiste dans son discours des bureaux, il le fait 12 jours avant l'assassinat de Samuel Paty, qui en est l'illustration par excellence, si vous voulez. Et en ce sens, on voit bien qu'on a changé de logique, et la loi qui est en train de passer aux deux assemblées en ce moment va en ce sens. On est en train plutôt d'essayer de revoir comment on peut faire société, comment on peut lutter contre les discours de haine sur le web. Et ce n'est pas seulement en France. Elle regardez aujourd'hui bon sens, les GAFA, par exemple. Je crois que oui, en tout cas.
Ce projet de loi
c'est il est débattu au Parlement. Effectivement, il restreint un certain nombre de libertés en fonction de la sécurité. Mais de même que pour la pandémie, on a restreint le droit d'aller et venir, on est obligé de se masquer.
Alors, Gilles Kepel, dans ce livre qui s'intitule donc « Le prophète et la pandémie », vous parlez aussi de cette recomposition qui a eu lieu en 2020 au Moyen-Orient, qui s'articule notamment, dites-vous, autour de deux grands pôles antagonistes, la Turquie, l'Iran, le Qatar, unis autour d'une idéologie d'islam politique, c'est pour ça que les deux sont liés avec le terrorisme qui nous frappe sur notre sol. Et puis de l'autre, l'axe, dites-vous, Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et les États-Unis. Pourquoi c'est un bouleversement ?
Alors, parce qu'on était habitué à voir le Moyen-Orient essentiellement à travers d'abord le conflit israélo-arabe, puis ensuite la fracturation entre sunnites et chiites. Et là, c'est plus exactement comme ça que ça se produit. La pandémie, avec l'effondrement de l'économie qui s'est ensuivie, a contraint les pétromonarchies à accélérer le passage à l'après-pétrole. Oui. Et du coup, les Émirats, qui gèrent par exemple 1 000 milliards de dollars de fonds souverains à peu près, se rapprochent d'Israël, pays de la high-tech, et investissent dans la high-tech israélienne pour préparer l'hydrogène vert, etc. aussi pour des raisons de survie ouais. de leur modèle. Ils sont obligés de passer à l'après-pétrole, si vous voulez.
Je donne une précision, Gilles Kepel, parce que vous parlez de pétrodollars. C'est une donnée très très importante que vous mettez en avant dans votre livre, qui constitue aussi les raisons pour lesquelles le Moyen-Orient s'est reconstruit d'une certaine manière. Vous dites, la chute spectaculaire des cours du pétrole, à cause de l'arrêt évidemment du commerce mondial, a fait perdre au Moyen-Orient et aux monarchies pétrolières 270 milliards de dollars de recettes. Voilà. Ce qui a conduit ces monarchies à se recentrer et voilà. Ce qui a modifié les équilibres de la zone.
Qui conduit un certain nombre d'entre elles et d'autres pays, comme le Maroc aussi, à considérer que finalement la coopération avec Israël mérite d'être menée. Et face à cela, vous avez un autre axe autour donc, de la Turquie, du Qatar et de l'Iran, paradoxalement, des pays qui ne s'entendaient pas si bien. La Turquie, par exemple, avait soutenu les rebelles contre Bachar el-Assad. L'Iran, au contraire, avait soutenu le régime iranien. Mais tous partagent, au fond, l'idéologie de l'islam politique, des frères musulmans, pour aller vite, qu'ils soient chiites, sunnites, turcophones, arabophones, persanophones. Et eux vont se dresser contre cette entente d'Abraham, avec la volonté de profiter de cette espèce de grande disruption de la pandémie, oui. du retrait de Donald Trump de la région à l'époque, pour essayer de pousser leur avantage, ouais. Avec des manœuvres qui parfois vont réussir, d'autres qui échoueront, mais qui participent d'une gigantesque recomposition du Moyen-Orient, dont nous vivons aussi les conséquences, notamment à travers la reprise des flux migratoires.
Et pour en... Voilà, c'est la question à laquelle j'allais venir. Pour en revenir à nous, est-ce que cette recomposition et cette alliance opportuniste d'un certain islam politique peut avoir des conséquences aussi sur le terrorisme qui nous frappe en France? Et là, on revient au début de notre conversation.
Oui, d'une certaine manière, et on le voit bien. Par exemple, quand Brahim Issaoui arrive à Nice pour commettre son assassinat, il vient tout juste de passer clandestinement la frontière italo-française en suivant la voie d'un certain nombre de jeunes Tunisiens qui, eux, venaient ici simplement pour tenter leur chance. Donc on voit bien toute la difficulté à dissocier l'ensemble et la nécessité d'une meilleure régulation économique et politique autour de la Méditerranée et aussi la nécessité pour l'Union européenne de présenter un front uni, une stratégie commune.
Ce qui n'est pas le cas.
Et on en est malheureusement encore assez loin. Ouais.
Alors sur ce jeu d'alliance, vous dites d'ailleurs, vous avez déclaré que la logique, je vous cite, n'est pas sans évoquer les prémices de 1914. Ça n'est pas rien, ça.
Oui, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai utilisé pour parler de ces alliances pour la triplice fréro-chiite, pour faire penser un peu à ce qu'avait été l'alliance entre l'Empire ottoman de l'époque, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Et puis de l'autre côté, l'entente d'Abraham, qui était la triple entente entre la France, la Russie et l'Empire britannique. Non pas que ce soit exactement la même chose, mais le Moyen-Orient s'est construit là-dessus. Quand Erdogan réislamise Sainte-Sophie, il le fait le 24 juillet 2020, c'est le 97e anniversaire des accords de Lausanne, qui ont permis à Atatürk, à la suite d'une offensive militaire fulgurante, de récupérer le territoire de l'Anatolie et d'annuler le traité de Sèvres qui voulait couper l'Anatolie en petits morceaux.
Il nous reste quelques instants. Gilles Kepel, vous êtes un universitaire. Que pensez-vous de la polémique qui monte ces dernières semaines sur l'islamo-gauchisme ?
Ce que je peux vous dire, moi, c'est que j'ai vu dans mon domaine, en tout cas, les études arabes s'effondrer complètement, être sous-financées. On a fermé des masters un peu partout, alors que c'est un enjeu majeur pour nous de connaître ce qui se passe dans le monde arabe, pour notre environnement et aussi pour l'intérieur de notre société.
Mais, pardon Gilles Kepel, quand Frédéric Vidal, ministre en charge de l'enseignement supérieur, dit « l'université est gangrénée par l'islamo-gauchisme », vous partagez cette analyse ?
Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que dans de nombreux établissements, c'est l'idéologie qui a remplacé la connaissance et qu'un certain nombre de crédits, de postes sont affectés pour cette région-là, pour des raisons idéologiques et non plus pour le développement de la connaissance et du savoir.
Mais alors, nommons les choses. Qui est responsable et qui oriente cette idéologie ?
Oh, y a beaucoup de lâcheté de tous les côtés. Je crois que notre modèle universitaire en France souffre aujourd'hui d'un manque de dynamisme et de direction, même s'il y a des individualités extrêmement fortes. Et je crois que ça, c'est un enjeu. Alors, Frédéric Vidal a mis a lancé un pavé dans la mare. Peut-être que les termes qu'elle a utilisés n'ont pas été les plus adroits. Mais en tout cas, je crois que le débat mérite d'être mené peut-être en prenant un peu de hauteur par rapport aux bisbilles universitaires qu'on a vues cette dernière semaine, qui, je pense, ne maîtrisaient pas forcément vraiment tous les enjeux.
L'islamo-gauchisme, c'est un terme que vous trouvez pertinent, judicieux, dans le cadre de cette problématique.
C'est un terme que j'ai déjà utilisé personnellement, oui. Vous savez, je l'ai ressenti moi-même. J'ai été beaucoup attaqué et mis en accusation pour faire mon travail par des individus qui se réclamaient de cette mouvance, c'est-à-dire qui s'imaginent que c'est à partir de la définition de la religion, de la race, du genre, etc., qu'on peut fragmenter les sociétés plutôt qu'à partir de l'appartenance aux classes sociales. Il y a d'ailleurs eu un livre de mes collègues Beau et Noiriel sur ce sujet récemment qui analyse ce phénomène.
Bien, merci infiniment Gilles Kepel pour ces quelques minutes passées ensemble. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant, je le redis, sur les nouveaux visages du djihadisme, mais pas que, sur la recomposition au Moyen-Orient en 2020 qui est capitale. C'est un tremblement de terre, dites-vous, en substance, qui s'est passé pendant cette année 2020. Ça s'appelle Le prophète et la pandémie, c'est aux éditions Gallimard. Merci à vous.
Merci de votre invitation.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Tous les vaccins, sans exception, peuvent être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, pas seulement les médecins, comme c'est le cas actuellement. Recommandation de la Haute Autorité de Santé qui veut accélérer la campagne de vaccination contre le Covid. De son côté, le régulateur européen donnera sa réponse sur l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Johnson & Johnson le 11 mars. Première journée du procès en appel de 13 jeunes accusés d'avoir agressé et blessé 4 policiers à Viry-Châtillon, en région parisienne. 2 fonctionnaires avaient été gravement brûlés par des cocktails Molotov. 8 des 13 accusés avaient écopé de 10 à 20 ans de prison en première instance. L'Espagne repasse au-dessus de la barre des 4 millions de chômeurs pour la première fois depuis 5 ans. Une hausse imputable aux restrictions adoptées pour lutter contre la troisième vague épidémique, affirme le gouvernement. Et puis la mort d'une légende du reggae. On lui doit la création des Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh. Le chanteur et percussionniste Bunny Wailer s'est éteint à 73 ans à Kingston, en Jamaïque.
Ça vous rappelle des souvenirs, ça, n'est-ce pas?
Absolument.
Merci, à tout à l'heure pour le journal 19h. Un coup d'œil à la météo avant de passer au débat des grandes voix. Le ciel se couvre dans le nord-ouest, Anissa.
Oui, le temps est plus instable en effet, Julien, sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Vendée demain. Alors ça va commencer par la Bretagne avec des nuages et quelques petites gouttes. Et puis au fil de la journée, les nuages vont s'étendre, la perturbation va rentrer dans le pays et va toucher donc la basse Normandie avec des orages là et puis la Vendée. En Corse, nous avons un ciel un petit peu plus couvert le matin en raison des entrées maritimes. Mais ces nuages bas vont très vite se dissiper pour laisser place à un grand, beau, généreux, lumineux soleil sur les trois quarts du pays demain. C'est encore une très belle journée printanière. Les températures en plus, elles sont en hausse demain avec 2 à 10 degrés le matin et 12 à 20 degrés dans la journée. Nous aurons 13 degrés à Brest sous les nuages, 18 à Paris et jusqu'à 20 degrés pour Bayonne.
Bien, et ça vous donne le sourire, ça fait plaisir
on
à
aime
voir et
ça,
entendre.
Hein.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure également à 19h pour un nouveau point sur le temps.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Nathalie Moret. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique du groupe de presse régional EBRA qui comprend entre autres le Dauphiné Libéré, l'Est Républicain ou encore le Progrès. Bonsoir Bruno Jeudy.
Bonsoir Julien.
Rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. On en parle également ce soir du débat des grandes voix avec Olivier Perroux. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
Vous êtes journaliste politique à l'hebdomadaire Le Point. Alors pour débuter, on va évoquer d'abord la situation sanitaire. Faut-il reconfiner au moins le week-end l'Île-de-France, comme on l'entend de plus en plus? Des concertations ont eu lieu et ça suscite évidemment la polémique. Des médecins hospitaliers le réclament, le gouvernement temporise. La mairie de Paris, elle, y est opposée, à l'image de sa maire, Anne Hidalgo.
Une proposition que je trouve difficile, dure, voire même inhumaine. De très nombreux habitants de nos territoires, je pense bien sûr à Paris, mais aussi aux habitants de la Seine-Saint-Denis, vivent dans des appartements exigus, sans espace extérieur. Ces habitants dans ces quartiers ont déjà payé un très lourd tribut à cette épidémie.
Voilà, peut-être un mot de commentaire pour commencer, Olivier Perroux, sur le discours parfois contradictoire de la mairie de Paris. Anne Hidalgo, qui avait dans un premier temps, via son premier adjoint, laissé entendre qu'elle souhaitait un reconfinement total pour 3 semaines à Paris, puis dans l'Île-de-France, on n'a pas bien compris, qui aujourd'hui se dit opposée à le renforcement de ce couvre-feu le week-end, comme le souhaitent visiblement certains au sein du gouvernement. Et puis elle propose aussi de faire classe à l'extérieur pour éviter de fermer les classes, qui est un peu compliqué quand il fait froid. On a du mal à s'y retrouver, Olivier Perroux.
On a du mal à s'y retrouver, mais c'est en même temps, il faut entendre ce que dit la maire de Paris.
C'est très dur de confiner une ville comme Paris. Pourquoi ? Parce que, en effet, elle dit que c'est inhumain. Il faut savoir qu'une majorité des habitants vivent quand même dans des petits appartements. Et on a eu de cesse de dire, notamment de la part du gouvernement, ces derniers mois, qu'il fallait respirer, il fallait un peu ressortir. Mmh. Alors, en effet, si on a son premier adjoint la semaine dernière qui dit qu'il faut reconfiner, et aujourd'hui, elle prend le contre-pied total, on s'y perd totalement. Mais j'ai envie de dire au gouvernement, on a dit pendant des semaines, hier, depuis le mois de janvier, qu'il fallait un maximum repousser le confinement. Et là, on veut tout reconfiner. Donc tout le monde s'y perd, personne n'y comprend.
C'est pas dit encore, hein. On va en parler de la stratégie du gouvernement, mais c'est pas dit, hein, parce que là aussi on a des messages assez
contradictoires. Le mantra du président de la République, c'est de dire on repousse un maximum le confinement. Ce qu'on nous dit au ministère de la Santé aujourd'hui, c'est « Ah oui, mais bon, il va falloir faire reconfiner à Nice, à Nantes et maintenant à Paris ». C'est compliqué de comprendre un peu la suite logique de toutes ces choses.
Votre avis sur la question, Bruno Jeudy. D'abord, peut-être un mot sur la stratégie, très politique d'ailleurs, hein, de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Oui, je crois qu'elle s'est un peu pris les pieds dans le tapis, la maire de Paris. En tous les cas, elle envoie son premier adjoint la semaine dernière pour dire il faut confiner 3 semaines, et puis après, on pourra revivre normalement. Alors, 3 semaines, c'était sans doute un peu court. Quitte à reconfiner, autant reconfiner 4 à 5 semaines. C'est ce que nous disent les épidémiologistes pour que ça ait de l'efficacité. Et on sait que le confinement, c'est efficace. J'ai trouvé au passage que la façon dont Jean Castex l'avait renvoyé dans les cordes, fadaise, était un peu... ça sert à rien, ce genre de phrase. On a le droit de débattre et on a le droit d'avoir des propositions et on peut en débattre sans tout de suite diaboliser ses adversaires.
Non, mais parce que ça a été vu.
Une semaine plus tard, elle dit je veux pas confiner. Voilà.
Comme une espèce de coup politique de la part de la mairie de Paris et d'Anne Hidalgo.
Il était raté, qui
avait regretté qu'on ferme les écoles, souvenez-vous, qui avait dit il faut tout faire sauf fermer les écoles.
Et qui signait une pétition le 17 février de il faut rouvrir les théâtres, la maire de Paris, il faut rouvrir les théâtres, il faut rouvrir
politique.
On ferme peut-être la parenthèse parisienne. Nathalie Moret, faut-il reconfiner l'Île-de-France ? Alors, vous n'êtes pas médecin, évidemment, mais au vu de ce qui se dit là dans l'exécutif,
il y a des sons contradictoires aussi.
Hein.
La petite musique qui dit qu'effectivement, l'Île-de-France ne pourra pas échapper à un reconfinement ce week-end. Moi, j'ai eu plusieurs conseillers au téléphone aujourd'hui qui m'ont dit que les chiffres qui vont être rendus publics ce soir seront absolument déterminants. Oui. Ce qu'ils essayent de faire en sorte que justement, comme vous le disiez, Olivier, un week-end où on n'est pas reconfiné, c'est un week-end de gagné. Est-ce que ce sera possible ? Là est toute la question, parce que le taux d'incidence en Île-de-France est beaucoup plus élevé que celui en France. Il est de plus de 300, alors qu'en France, la moyenne est environ 200.
Justement, Nathalie Moret, moi, j'aime bien les chiffres. Et alors, j'ai les yeux quotidiennement sur les chiffres. En Île-de-France, le taux d'incidence est désormais de 322, c'est-à-dire 322 cas pour 100 000 personnes. La tension hospitalière est certes au-dessus des 72%, mais vous savez, quand on a confiné le Nord, quand on a confiné Dunkerque, on était à un niveau d'incidence de 900 malades et pour 100 000 habitants.
Et là, c'est sur les 8 départements, 322 ou 320, il faut savoir que ces chiffres sont nettement supérieurs en Seine-Saint-Denis, à Paris même, en Val-de-Marne et en Seine-et-Marne, lorsqu'ils sont beaucoup plus bas dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise.
Mais
on a un petit peu
cliniquement,
l'ouest contre
cliniquement
l'est.
Les chiffres, Bruno Jeudy, entre 350, quand bien même 400 pour 100 000 habitants et 900 à Dunkerque, on est quand même sur un rapport de plus de 1 à 2.
N'oubliez pas qu'à Dunkerque, une semaine plus tôt, c'était 500. Donc ça progresse très très vite. Quand ça démarre, ça c'est exponentiel.
Donc on aura du mal à y échapper.
Et
visiblement,
on est surtout
si
dans une région
Nathalie
Moret. Où la densité de population est très importante. Par exemple, en Moselle, où le variant est aussi très très présent, il n'y a pas eu de reconfinement le week-end, justement parce que la densité de population est quand même moins importante qu'à Paris.
Oui.
Est-ce qu'on va pouvoir y échapper ? Je n'en sais rien, mais tout à fait entre nous, j'espère.
Olivier Perrault.
Mais c'est très compliqué de confiner Paris. Enfin, il faut savoir que, prenez le métro, je pense qu'on prend tous le métro, il est bondé
ou le
métro.
Vélo, ou le vélo.
Le métro, il est bondé le matin. Il est bondé, les tramways sont bondés. Oui. Alors on va dire aux Parisiens, eh bien, le week-end, vous n'allez pas sortir, vous n'allez même pas pouvoir sortir en Ile-de-France, dans les forêts, la forêt de Meudon, etc.
Les gens travaillent moins, ils sortent moins. Vous savez, les déplacements écoles, c'est 22%
des déplacements. J'entends qu'on parle des chiffres et qu'on présente les chiffres, etc. Mais depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année, au gouvernement, on nous dit qu'il faut arrêter de regarder que les chiffres. Il faut regarder aussi l'impact psychologique que ça peut avoir. Et confiner une ville comme Paris, ça peut avoir un impact psychologique très dur. Et alors, même au-delà de Paris, parce que si on regarde ce qui va se passer ailleurs dans les autres régions, et je vous le donne en mille, on va avoir un exode des Parisiens qui vont aller en Bretagne, etc.
Passer... Comme ça s'est passé à Nice.
Exactement, comme ça s'est passé à Nice. Alors, ils ne partiront
avec,
peut-être
avec
pas...
Avec une sérieuse inégalité aussi, on peut le dire les au passage. Hein, c'est-à-dire que les classes populaires, voilà, ils seront prisonniers de leur appartement, et puis les classes plus aisées pourront fiche le camp
et
à la campagne.
Et avec quel contrôle? On peut partir le jeudi soir pour passer et revenir le lundi matin, etc. Donc, j'ai peur que finalement, cette demi-mesure, c'est l'expression qui avait été utilisée par Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, est un effet...
Olivier Perroux, si demain les services de réanimation sont totalement saturés et sous l'eau, comme c'est en train de commencer à être le cas, on sera obligé de prendre des mesures. Je voudrais simplement vous faire partager quand même, parce qu'on parle de petite musique, parfois contradictoire, ce qu'a dit tout à l'heure Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, c'était à la mi-journée devant l'hôpital Saint-Louis à Paris, où justement les soignants étaient en train de lui dire qu'ils commençaient à être saturés par le nombre de patients. Eh bien, il disait ceci.
Notre souhait, c'est de tenir sans avoir à rajouter des restrictions, rajouter des difficultés dans la vie quotidienne des Français. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise tous ensemble.
Voilà, là, Bruno Joly, c'est vrai qu'on a du mal aussi à comprendre quel est le cap.
Le tenir ensemble sans rajouter des restrictions. Donc on voit bien que là, il tient bien la ligne du président de la République.
Il n'y a pas de problème. On est mardi, demain il y a le Conseil de défense, jeudi sans doute une prise de parole. Bon, on attend des chiffres déterminants.
Les chiffres depuis le début de semaine, plus ceux d'aujourd'hui et affinés avec quelques études, décideront du sort des franciliens et des parisiens pour le week-end prochain. Ça va être aussi simple, simple que ça.
Il y a quand même 20 départements sous surveillance. Donc, s'il y a l'Île-de-France, il y aura nécessairement d'autres départements.
On sait quand même que l'interrogation et l'inquiétude se portaient beaucoup sur l'Île-de-France déjà la semaine dernière lorsque Jean Castex est intervenu. Il faut savoir qu'on était quand même, la semaine dernière, quand il fait sa conférence de presse, la Seine-Saint-Denis est déjà autour de 350 en taux d'incidence. C'est très élevé également sur l'est de la région parisienne. Donc il y avait quand même déjà beaucoup d'inquiétudes. Et c'est pas allé en diminuant ces derniers jours, notamment dans l'hospitalisation qui a quasiment les hospitalisations quotidiennes ont quasiment doublé ces derniers jours pour la région parisienne.
On sent, Nathalie Moret, que le président et l'exécutif dans son ensemble jouent encore une fois le trou de souris ou la ligne de crête. C'est-à-dire qu'il y a la vaccination qui quand même s'accélère. On est à plusieurs millions de personnes qui ont reçu aujourd'hui la première dose. Et puis il y a le beau temps. Alors, le beau temps peut peut-être favoriser quand même une décrue de la circulation du virus et des contaminations, parce qu'on aère plus facilement, parce qu'on est dehors, et que, contrairement à ce qui peut parfois être dit, il n'y a pas de cluster notable à l'extérieur, même si les gens sont sur les quais de Seine ou sur les quais de la Garonne, mais voilà, il n'y a pas de cluster.
Par contre, il y a des réunions intrafamiliales, on sait que c'est beaucoup là, dans les fêtes, où les gens se retrouvent le samedi soir, dans les réunions de famille du dimanche, c'est là où les gens se contaminent, et c'est bien sur ce levier-là qu'essaye de jouer le gouvernement. Le gouvernement, j'allais dire, qui fait ce qu'il peut, parce qu'honnêtement, si on regarde les chiffres depuis une dizaine de jours, ils ont beaucoup évolué. On aurait pu se dire, il y a une dizaine de jours, ah tiens, ça commence à baisser, et on va vers
c'est
le mieux.
C'est ce qu'on disait d'ailleurs.
Et
d'ailleurs, les chiffres étaient plutôt, les deux premières semaines, étaient plutôt favorables.
Et là, du coup, on est aujourd'hui en train de se dire, est-ce que demain, le Conseil de défense va prendre la décision de reconfiner le week-end l'Île-de-France? Donc on voit bien que tout est mouvant et que ça ne doit pas être simple de prendre des décisions.
Accepter quand même socialement aussi pour les habitants de l'Île-de-France qui vivent, vous le disiez assez justement, Olivier Perroux, 75% je crois du parc immobilier de Paris, c'est des appartements de moins de 75 mètres carrés sans extérieur.
Voilà.
Donc c'est
ajouter à ça le beau temps dont vous parliez, ça va être très compliqué. En effet, il y a une acceptation sociale. Il y a une espèce de fil sur lequel le gouvernement, on peut le comprendre, ils doivent prendre des mesures, mais ils tirent. Et à faire des mesures différenciées, donc avec quelque chose que le week-end où il faut prendre le métro la semaine, ou alors à faire peut-être à libérer un peu plus des catégories sociales qui pourront quitter Paris le week-end, ça va tirer un peu ce fil social. Et là, vous savez, le fameux débat de l'acceptabilité des Français, je pense qu'il a ses limites. On a toujours salué, c'est vrai, les Français ces fameux Gaulois réfractaires qui finalement se sont pliés aux règles et les ont respectés de façon assez remarquable. Eh bien, on se pose toujours, il faut toujours se poser la question de savoir jusqu'à quand ça va durer.
Surtout qu'on arrive au 12 mars. Le 12 mars, ça va faire un an que le président de la République avait pris la parole pour fermer les écoles. Si on se retrouve à quelques jours du 12 mars, donc un an après...
Dans la même situation.
Ça va être, je pense, très très difficile. Compliqué. Il va falloir vraiment être très très fort en pédagogie pour faire accepter ça aux Français.
C'est juste. 18h44, on marque une pause. On s'intéressera dans quelques secondes, évidemment, à l'autre affaire du moment, Sarkozy. Et les juges font-ils de la politique? C'est la grande question. La droite, en tout cas, s'en donne à cœur joie depuis 24 heures. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite à 18h46 du débat des grandes voix du mardi, toujours Nathalie Moret, journaliste politique du groupe de presse régional EBRA, Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match, et Olivier Perroux, journaliste politique au Point. Alors, on en vient à la polémique suite. Après la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes, 3 ans de prison, dont un ferme, ou 2 ans avec sursis, c'est selon, pour avoir tenté d'influer en 2014 sur une décision de la Cour de cassation. Et depuis hier, les soutiens de l'ancien président, à droite évidemment, dénoncent une forme de justice politique. Petite musique reprise ce matin sur notre antenne à ce micro par Marine Le Pen.
Je ne souhaite pas que les magistrats fassent la primaire de la présidentielle.
Mais alors comment
je
y remédier ?
Je n'ai pas envie que les magistrats déterminent qui seront mes adversaires
alors
à la présidentielle.
Y
Et je vais même plus loin, je vais vous dire. Je pense que Nicolas Sarkozy, compte tenu de la jurisprudence Fillon, si Nicolas Sarkozy souhaite être candidat à la présidentielle, eh bien, il doit l'être.
Alors ça s'appelle normalement un soutien empoisonné, Bruno Jeudy, en politique.
Oui, forcément, enfin... Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le souci premier de Nicolas Sarkozy qui est plongé maintenant dans l'appel, dans le procès Vigmalion et qui est déjà remonté sur son cheval en essayant de vouloir absolument laver son honneur dans l'appel qui interviendra dans 9 ou 10 mois. Donc il est entré dans une autre...
Au cœur de la campagne présidentielle.
Oui, dans une autre histoire. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle a beau jeu de reprendre la balle au bon, elle-même ayant été largement...
C'est ce que j'allais dire. Rappelons que Marine Le Pen...
En proie avec de multiples affaires...
Est toujours inquiétée par la justice, mise en examen dans le dossier des assistants parlementaires européens du FN. C'est grave tout de même, cette accusation, Nathalie Moret, de justice politique.
C'est pas une première. Hein. On l'a déjà vu beaucoup à l'époque de l'affaire Fillon. Rappelez-vous, hein, c'était l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques.
Est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce que les juges, font de la politique ?
Écoutez, je personnellement, je suis peut-être naïve, mais je ne pense pas. Il y a aussi des gens de gauche qui ont été condamnés, etc. Alors après, c'est normal que les gens de droite actionnent cette petite musique-là dans la mesure où la justice en France, elle fait toujours un peu peur, elle n'est pas forcément bien vue.
Excusez-moi, il n'y a pas que les gens de droite. Souvenez-vous, Mélenchon, c'est une musique qui revient. Il y a un acharnement des juges contre les puissants qui veulent se faire, pour parler clair, des politiques. Est-ce que ça, c'est vrai ?
Moi, franchement, je suis encore une fois peut-être naïve, mais non. Je veux dire, alors en même temps, c'est pas le. On entend aussi.
Il y a
beaucoup,
Bruno Jeudy qui dit si, c'est le cas.
On dit aussi beaucoup que il y a un problème avec le parquet national financier. Je veux juste redire que c'est pas le parquet national financier qui a condamné Nicolas Sarkozy hier. Hein, c'est le tribunal correctionnel.
Non, mais ces méthodes sont largement quand même critiquables. Et il a sans doute largement dépassé le cadre habituel de ce type d'enquête. Moi, je continue
si ce n'est que
à
les
penser
écoutes,
dans cette
si...
affaire que d'avoir ne pas avoir respecté les droits de la défense dans l'affaire de l'interception de l'enregistrement.
Mais ça a été validé par la Cour de cassation.
Oui, validé par la Cour de cassation. Mais je vous mets un billet aujourd'hui qu'un jour la Cour européenne de justice reviendra sur ce point parce que
pour l'instant, elle l'a validé aussi.
Même Julien Bugey, j'étais sur un plateau, même la présidente d'Anticor. Même la présidente d'Anticor reconnaît qu'il y a un problème avec ce point-là.
Renaud Van Ouenbeck, lui aussi.
Il a dit qu'il n'aurait pas écouté.
Il est quand même condamné largement sur ce point-là. C'est ça qui soutient largement les 150 pages.
Même question. Il y a un acharnement des juges contre les puissants et les politiques.
Alors, je vais me cacher derrière la réponse d'Éric Dupont de Moretti, qui, dans un entretien au Point, qui est sorti sur, je vous invite à le lire sur le site de Point, il dit je ne crois pas qu'il y ait un acharnement. Il n'y a, a pas une équipe de juges de gauche qui se concerte pour s'en prendre à des gens de droite et inversement. Quand vous dites que ce n'est pas une première. C'est vrai que ce n'est pas une première, mais ce n'est pas très vieux. Et c'est là qu'est le problème, en fait. C'est que, finalement, les enquêtes sur la classe politique de la part des juges, c'est très récent. Ça commence avec l'affaire Boulin, et puis il y a l'affaire Urba, qui... Pareil, il faut remettre les choses dans leur contexte. On dit qu'il y a une petite hystérisation en ce moment, parce que les gens de droite...
Vous vous souvenez, à l'époque, le ministre de la Justice, sur l'affaire Urba, il avait dit c'est une cabale.
Je me souviens pas.
C'est une cabale.
Oui, il avait même dit pire. Il avait dit c'est un cambriolage judiciaire. C'est un cambriolage judiciaire. C'est-à-dire que dans l'affaire Urba, quand on va perquisitionner les locaux du Parti Socialiste, on dit c'est un cambriolage judiciaire. Donc la violence des propos, il y avait même eu l'avocat du Parti Socialiste qui avait bousculé physiquement le juge Pierre-Jean. Donc, c'était une époque assez dingue où il y avait vraiment une violence, une tension physique qui était décuplée. Mais c'est récent. C'est les années 90, donc, c'est très récent. Ça veut dire que la classe politique, je finis juste sur ce point, classe politique ne digère toujours pas aujourd'hui que le judiciaire vienne s'immiscer dans ces affaires.
C'est la question essentielle de ce débat. Est-ce que d'un côté, il y a des juges tout-puissants, je repose ma question, qui veulent s'en prendre absolument et qui veulent se faire des politiques, ou est-ce que c'est les politiques qui n'aiment pas qu'ils soient les justiciables comme les autres?
Et c'est une ligne politique, de se défendre aussi.
Il y a sans doute un peu des deux. Je pense quand même que, s'agissant de la justice, on est passé peut-être, de rien à tout. En tous les cas, sans doute qu'il y a eu beaucoup de déférence vis-à-vis des politiques pendant de longues années et qu'aujourd'hui, ils ont tendance à prendre le maximum tout de suite. Et même si on peut directement les mettre en tôle plusieurs années, on se gêne
pas. Ça arrive pas souvent quand même.
Ça arrive pas souvent, mais ça va arriver de plus en plus souvent sans doute. Donc il y a une volonté, et encore une fois, on est sans doute passé comme ça, un peu de rien à tout.
Mais sur l'affaire de Nicolas Sarkozy.
Chez les politiques, il y a toujours ce côté, on réclame toujours plus de sévérité, et puis quand ça s'applique aux politiques, c'est vrai qu'ils peuvent être pris à leur propre jeu. S'agissant de Nicolas Sarkozy, je répète quand même que cette affaire des droits de la défense, de l'interception des discussions entre un avocat et un client, fût-ce un ancien président de la République, et qui était quand même à l'époque, on va dire, un des opposants principaux du président de la République, ça pose réellement un problème. Et je peux vous dire que ça changera. Ça ne restera pas comme ça. C'est pas possible.
Dans une enquête, et je rajoute, c'est très juste ce que vous dites, et dans une enquête préliminaire menée en parallèle par le PNF, qui a duré 6 ans, sans que personne n'en sache rien. C'est vrai que...
Si j'ai bien suivi de loin, parce que je ne connais pas le détail du dossier, mais il y a quand même 13 juges qui sont partie prenante dans cette affaire au fur et à mesure de ces 6 ans d'enquête. Donc, c'est pas un juge seul qui a décidé... de cette condamnation.
Non, mais non, et ça, c'est Éric Dupond-Moretti, encore une fois, qui le dit. Il y a la question de l'enquête préliminaire. Est-ce que ça doit durer 6 ans? Parce que ça jette l'opprobre, forcément. Donc, il faut régler ces questions d'enquête préliminaire très rapidement.
Les procédures de droit qui sont...
Bien sûr, mais il faut régler cette question
de
préliminaire très rapidement. Et je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que ce soit les juges qui se liguent en tous pour frapper Sarkozy. Mais il faut régler ces problèmes dans la vitesse.
Moi, je ne pense rien, mais je pose les questions. J'entends les arguments des uns et des autres qui, bien malin, pour savoir
François
la vérité
Bayrou,
dans cette affaire.
François Bayrou, garde des Sceaux, avait été contraint à la démission au début du mandat. Donc, ça ne touche pas simplement que les gens de l'opposition. Oui. Donc, voilà.
Laquelle Après, affaire, en fin de mandat, n'est toujours pas... L'enquête n'est toujours pas terminée. Enfin,
ce qu'il faut retenir de cette histoire, et ce que je trouve presque, j'allais dire... réjouissant en tout cas, c'est que les hommes forts, c'est-à-dire que l'ancien président de la République, est justiciable de la même façon que vous et moi. Et ça, je trouve que c'est plutôt...
Ça n'empêche pas d'interroger les
méthodes. Ça n'empêche pas de s'interroger, d'accord.
Les méthodes du PNF, du Parquet National Financier, c'est ça qui pose question selon vous, Bruno Joly.
Elle pose vraiment question, et je vous dis encore une fois, si dans ce pays les discussions entre un avocat et son client ne sont plus protégées par... le secret, je pense qu'on va changer de nature. Et d'ailleurs, les avocats, depuis, ont changé leur façon de travailler, ont été contraints de changer leur façon de travailler.
Il y a une déclaration très importante sur cette affaire qui a été faite ce matin et qui est là aussi inédite. Hein. C'est le procureur national financier qui est venu s'expliquer à la radio sur cette décision. On l'écoute.
Et je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que mon parquet n'entendait pas mener une fronde contre lui et qu'on n'était pas dans une situation de vengeance. Mais comprenez bien, si des infractions sont constituées, c'était la thèse du parquet, c'est aujourd'hui la thèse du tribunal. Eh bien, nous ne pouvions pas faire autrement que de poursuivre et de requérir la condamnation.
Ça aussi, c'est inédit. Hein. Le monsieur qu'on a entendu, c'est Jean-François Bonnaire, procureur national financier, qui vient, d'une certaine manière, justifier... la décision qui a été prise à l'endroit de l'ancien président de la République.
Il fait ce qu'on appelle en politique le SAV.
Oui.
Il vient faire le service après-vente d'une décision qui pose beaucoup de questions, d'une méthode qui interroge, on le disait tout de suite, même le juge des juges, j'ai envie de dire Renaud Van Rienbeek, qui dit, lui, éplucher les fadettes d'un avocat, je ne l'aurais jamais fait.
Oui. Donc, vous pensez que c'est perçu par les Français, cette affaire? Parce que d'un côté, il y a une défiance vis-à-vis de la justice. Je regardais la dernière enquête, c'est Vipof, qui nous montre qu'un Français sur deux est défiant, méfie de la justice du quotidien. Mais vis-à-vis des politiques, que se disent les Français, à votre avis?
Bon, les Français, de toute façon, sur les politiques, ils oscillent entre l'éternel camp du tous pourris et puis l'éternel camp de ceux qui disent non, mais ne les mettons pas dans le même panier. Je suis plutôt dans le deuxième camp. Ça n'a pas beaucoup changé. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que la justice met de plus en plus de temps à juger et surtout à appliquer les peines, que la justice au quotidien est souvent
parce qu'il y a pas assez de budget, vous le savez.
Bien mal rendu parce qu'il n'y a pas le budget qu'il faut. Ça va s'améliorer. Éric Dupond-Moretti a plutôt eu des bons arbitrages en matière de justice. Et puis, il ne faudrait pas non plus que ces affaires très spectaculaires donne aussi une impression de vengeance de la part, la part des juges, parce que pendant des années, ils auraient fermé les yeux sur d'autres affaires.
C'est la terminologie de l'édito aujourd'hui du journal Le Monde, la revanche des petits pois, parce que vous vous souvenez qu'en 2017, Nicolas Sarkozy avait critiqué les magistrats qu'il avait qualifiés de petits pois. J'ajoute juste que le PNF ne fait pas que de la politique. Hein. J'ai vu que c'était eux qui étaient à l'origine, je ne le savais pas, de la condamnation de Google à rembourser 1 milliard d'euros à l'État français. Voilà, c'est important de le dire, c'est une info que je ne connaissais pas. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi.
Europe 1, écoutez le monde changer.